Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Hey, you know what?
Les nouveaux chemins se demandent tous les jours ce qu'est la métaphysique, en compagnie de Samuel Legendre, Tristan Grenassia, Antoine Ravon, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation cette semaine, un moteur premier, Nicolas Berger, à la lecture supralunaire, Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son Delta, Clément Daté. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui, aujourd'hui, vous donnera envie de lire « La quête de certitude, une étude de la relation entre connaissance et action » de John Dewey, publiée aux éditions Gallimard. C'est le dernier temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à Aristote, le stagirite, le fondateur du lycée, le précepteur d'Alexandre le Grand et surtout le maître de ceux qui savent, si l'on en croit Dante. Alors après Pierre Pellegrin qui lundi nous a donné les clés de l'Organon, Francis Wolff qui vous a présenté les textes politiques d'Aristote, ça c'était mardi, entre justification de l'esclavage et possibilité démocratique, et Anne Mercker qui hier mercredi a répondu non à la question de savoir si l'âme était le propre de l'homme. Désolée d'avoir gâché ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast d'hier. Aujourd'hui, pour terminer cette série, c'est la philosophe Annick Stevens qui vient se demander pour vous ce qu'est ce texte décisif pour le reste de l'histoire de la philosophie et qui se nomme La métaphysique. Bonjour Annick Stevens.
Bonjour.
Nous sommes si habitués à user du mot métaphysique et à transposer le préfixe méta pour parler de métapsychie, de métalogique, de métamathématique, qu'il faut faire effort pour se rappeler que ce terme devenu si banal est d'abord le fruit d'un malentendu, peut-être d'un simple jeu de mots. Lorsque les bibliothécaires alexandrins, en un temps où l'on recommençait à s'intéresser à l'œuvre longtemps oubliée du stagirite, voulurent classer les manuscrits du lycée, ils furent embarrassés, certains faisant double emploi, d'autres se présentant sous une forme inachevée, comme des notes de cours ou des brouillons d'auteur. Dans l'édition d'Andronikos de Rhodes, 12 rouleaux traitant de façon plus ou moins précise de ce qu'Aristote lui-même appelle philosophie première ont été classés après les traités concernant la nature, c'est-à-dire les physiques. Méta ne signifie originairement rien de plus que cette postériorité dans le classement. On a joué sur les autres sens possibles du préfixe et peu à peu, métaphysique a signifié ce qui concerne l'au-delà de la physique, c'est-à-dire le monde des intelligibles.
Annick Stevens, vous êtes philologue classique et philosophe. Vous étiez professeur de philosophie à l'Université de Liège en Belgique jusqu'en 2012.
Oui.
Puis vous avez pris la décision de quitter l'université, d'enseigner la philosophie en université populaire à Marseille.
Voilà, et je m'en porte bien.
Voilà, et bien félicitations. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage consacré au livre Delta de la métaphysique d'Aristote. On le trouve aux éditions Vrin. Et vous avez participé à l'édition des œuvres d'Aristote qu'on trouve en Pléiade, sous la direction de Richard Baudéus. Vous avez également traduit certains texte d'Aristote. Et c'est avec vous donc que nous terminons cette semaine avec le texte peut-être le plus difficile d'Aristote.
Je crois, oui.
Oui, voilà, on va le voir, mais il ne faut pas que ça effraie, puisque justement, vous allez nous dire en quel sens la difficulté est au service d'une pensée tellement, tellement puissante qu'elle a influencé toute l'histoire de la philosophie ensuite. L'émission a été ouverte avec la voix de Maurice de Gandillac, le philosophe et historien de la philosophie française. C'était une émission de radio de 1954 intitulée « Connaissance de l'homme ». Maurice de Gandillac donnait une hypothèse sur l'origine du terme de métaphysique, car commençons par là, ce terme-là n'est pas d'Aristote.
Voilà, le terme il n'apparaît pas avant le 1er siècle de notre ère, et c'est vrai qu'une des possibilités c'est que ce soit simplement une question de classement après la physique. Mais c'est vrai qu'on peut aussi justifier le méta parce que Aristote lui-même dit bien que si la physique n'est pas la philosophie première, justement, eh bien c'est parce qu'elle s'occupe des états naturels qui ne sont pas le tout des états. Il y a encore des états au-delà des états naturels et il vise par là en fait ces fameux premiers moteurs dont il fait les moteurs immobiles des astres et dont il garantit et par lesquels il garantit l'éternité du mouvement des astres. C'est une toute petite partie de la métaphysique qui porte là-dessus, le livre Lambda précisément, tandis que tout le reste de la métaphysique s'occupe D'une manière beaucoup plus large, de ce qu'Aristote appelle toujours philosophie première, mais avec un autre sens, qui est science des étangs en tant qu'étang. Et donc c'est une philosophie générale, absolument générale, qu'il essaye de fonder, qu'il essaye de constituer, et qui doit d'abord défendre contre le fait qu'il y a de multiples sens de l'être. Et donc la question des sens de l'être, elle émerge aussi dans cet ouvrage. Et Aristote cherche une unité des multiples sens de l'être. Parce que chaque fois qu'on parle d'un étant, donc d'une chose qui est, d'un être quelconque, on se rend compte que son existence n'est pas la même que l'existence des autres étangs. Il y a des existences de types différents. Il y a des vivants, des inertes, il y a des éternels, des passagers. Il y a toutes sortes de types d'existences. Et Aristote, après avoir dénombré les principaux, se dit « mais tout de même, il faut que, quand on dit chaque fois à propos de chacun d'eux qu'il est, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Il doit bien avoir une unité de sens dans ce « est ». Et c'est ça qu'il cherche.
Alors, une unité de sens, comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Parce que ce n'est pas simplement par souci, disons, linguistique qu'Aristote en vient écrire la métaphysique. Ce n'est pas simplement pour essayer de trouver le bon terme qui désignerait la réalité appropriée. C'est aussi parce que, disons, par souci proprement ontologique, chercher le sens de l'être en tant qu'être, c'est savoir ce qu'il est réellement et pas simplement si le terme est juste.
Exactement. C'est une enquête vraiment qu'on peut appeler ontologique dans la mesure où c'est l'être des étangs qu'il cherche. Parce que pour pouvoir faire une science générale, ce qui est son but et son objectif, il faut justifier qu'on n'a pas affaire à des genres qui sont complètement disparates et qui n'ont pas les mêmes principes explicatifs. En fait, jusque-là, justement, Aristote est plutôt l'homme qui défend l'autonomie de chaque genre par rapport aux autres. Chaque genre, donc chaque domaine de la science, doit avoir ses propres principes, ses propres méthodes d'investigation. Et jusque-là, il n'avait pas pensé qu'une science générale était possible. Donc, il faut qu'il la défende. Et c'est pour ça qu'il justifie que même si tous les étangs ne forment pas un genre, il n'empêche qu'on peut les étudier tous ensemble du point de vue de leurs structures les plus générales. Et c'est là évidemment qui est l'important. Quand on dit on les étudiera en tant qu'étangs, ça veut dire qu'on va les étudier uniquement en tant qu'ils sont.
Comment comprendre la distinction entre être et étang, puisque vous employez à plusieurs reprises ces termes-là ? Est-ce que l'être, c'est le principe de ce qui est ? L'étang, c'est ce qui est en acte ? On le comprend comme ça ?
Je pense qu'on est vraiment obligé d'utiliser cette distinction que Aristote lui-même essaye parfois de faire remarquer, même si le grec est ambigu. L'étang, c'est la chose qui est, simplement. Donc, tout ce qui existe, ce sont des étangs. Mais l'être, c'est le mode d'existence de chacun de ces étangs. Et l'être en général, c'est l'existence en général. C'est le fait qu'il y a des choses en général. Le mode d'être des choses, Aristote s'y intéresse précisément en tant qu'il est chaque fois multiple. Hein, il y a l'être en puissance ou en acte, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, quelque chose qui n'est que potentiellement et quelque chose qui est effectivement déjà réalisé. Donc ce genre de distinction, il les répertorie. Et puis, ce qui l'intéresse surtout, c'est de montrer qu'il y a des grandes structures générales qu'il appelle des principes. Ou des propriétés par soi qui traversent en fait tous les genres des étangs et par lesquels donc on peut tenir un discours général sur la réalité. C'est ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que, bon, c'est bien connu, hein, les quatre types de causes qu'Aristote a établies déjà.
C'est pas bien connu forcément de tout le monde, il faut nous les rappeler.
Donc, c'est dans la physique qu'Aristote, pour la première fois, donc, expose les quatre types de causes qu'il estime pouvoir rendre compte absolument de tout ce qui existe, que ce soit naturel ou humain. Et dans ces quatre causes, donc il y a d'abord la matière. Hein, pour qu'il existe quelque chose, il faut de la matière, il faut du corps. Secondement, il faut des formes, c'est-à-dire que chaque chose est définie par la forme qu'elle possède. Cette forme, au fond, c'est ce qu'on appellera aussi plus tard l'essence de la chose, que Platon appelait déjà d'ailleurs aussi l'essence de la chose. C'est ce qui indique ce qu'elle est spécifiquement et qui la différencie des autres choses. Donc la forme, elle est assez générale. Elle désigne plutôt des espèces de choses que des individus. Et puis, il y a la cause finale. Ça, c'est le but dans lequel se fait quelque chose. Donc ça s'exprime plutôt à propos des mouvements, des transformations, des générations des choses. Et la quatrième est la cause qu'on appelle traditionnellement efficiente, mais qui signifie en fait l'origine du mouvement, la cause qui est à l'origine du mouvement. Et elle joue un rôle particulier dans la métaphysique, puisque ces fameux moteurs immobiles, qui sont les substances non physiques que doit étudier le philosophe premier, ces fameuses substances-là, elles sont nécessaires en tant que motrices, et uniquement dans l'ordre donc de une de ces quatre causes, qui est la cause motrice. elles ne sont pas, elles ne rendent pas compte des trois autres types de causes. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas réduire la métaphysique à l'étude de ces moteurs immobiles et donc du supraphysique, si on veut, parce que tout le reste de la structuration des étangs par les autres causalités, par les autres types de principes, y compris les principes épistémologiques, tout ça est pris en charge par cette même philosophie première.
Mais est-ce que ça veut dire que les principes physiques, parce que vous avez nommé ces quatre causes, oui, sur lesquelles Aristote base sa métaphysique, que c'est des causes qui sont la cause selon la finalité, la cause efficiente, ce sont des causes que le physicien met en œuvre lorsqu'il essaye d'expliquer le monde.
Oui.
Est-ce que ça veut dire donc qu'il y a une transposition des lois physiques dans la métaphysique?
C'est plus exactement que la métaphysique est tout à fait générale. C'est-à-dire que ce qui vaut pour la métaphysique vaut pour toutes les autres sciences qui
donc
sont régionales. Mmh. Voilà, c'est l'inverse. C'est plutôt que, même si, bon, dans l'ordre de la connaissance, on y arrive peut-être en dernier parce que c'est la connaissance la plus difficile, parce que la plus générale. Mais en fait, dans l'ordre causal ou structurel, le plus général est premier, effectivement. Et donne ces grands principes aux autres genres, mais pas les principes propres à chaque genre qui s'y est.
Et c'est pour ça qu'Aristote nomme cette philosophie la philosophie première. Alors on va entendre un extrait tout de suite de cette métaphysique. C'est le chapitre 2 du livre Alpha, le premier. Et alors c'est dans ce texte, vous allez l'entendre, Aristote cherche à caractériser ce qu'est la sagesse, et il va essayer d'étudier ce qu'est l'origine de la philosophie pour essayer de comprendre en quoi la philosophie, y compris la philosophie première, est une approche spécifique du monde qui se distingue d'autres sciences, car elle est une science, mais une science très particulière. Écoutez.
C'est par l'étonnement que les hommes, maintenant comme au début, commencèrent à philosopher. S'étonnant d'abord des plus banales parmi les choses les plus embarrassantes, avançant ensuite peu à peu dans cette voie pour s'interroger sur des choses plus importantes, comme les affections de la lune et celles du soleil et des étoiles, et comme le devenir de l'univers. Or, celui qui s'interroge et qui s'étonne estime qu'il ignore. C'est pourquoi aussi l'amateur de mythes est d'une certaine façon philosophe, car le mythe est composé de choses étonnantes. De sorte que, si c'est pour échapper à l'ignorance que les hommes ont philosophé, il est clair que c'est pour savoir qu'ils poursuivaient la science, et non en vue de quelque utilité. D'ailleurs, le cours même des événements en témoigne. On avait déjà presque toutes les choses nécessaires et toutes celles qui se rapportent à la commodité et à l'agrément quand on commença à chercher cette sorte de connaissance. Il est donc clair que nous ne la cherchons pour aucun autre avantage, mais que, comme l'homme libre, disons-nous, est celui qui vit pour lui-même et non pour quelqu'un d'autre, de même, nous la cherchons en tant qu'elle est la seule science libre, car elle seule est en vue d'elle-même.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Vendrette.
Ce que nous dit ce texte, Annick Stevens, enfin la question que pose Aristote est la suivante. Quelle est la valeur ajoutée d'une réflexion philosophique sur le monde quand on possède déjà les savoirs propres aux sciences physiques, mathématiques, biologiques? C'est une vraie question qu'on peut encore se poser, qu'on se pose encore aujourd'hui.
Oui, j'adore ce texte parce que je trouve que c'est d'une ironie délicieuse par rapport à notre époque de dire qu'on avait déjà tout ce qui était nécessaire pour le confort, pour l'agrément, ouais, de la vie. Il n'y a plus besoin de développer des techniques. En fait, ce qu'il fallait maintenant, c'est d'étudier les savoirs pour eux-mêmes, le savoir librement pour le simple plaisir de satisfaire sa curiosité. Donc je pense que le texte va d'ailleurs un peu au-delà de ce qu'on entend par philosophie et que lui entend par philosophie première, donc disons l'ontologie ou la philosophie de la forme. Bon, c'est peut-être un peu plus large, c'est la connaissance désintéressée, en tout cas la connaissance qui ne débouche pas immédiatement sur une application technique quelconque. Donc je trouve que c'est un très bel hommage à la connaissance et à la philosophie.
Parce que déjà, vous l'avez dit, il insiste sur le plaisir qu'il y a à la philosophie.
Exactement.
Sur ce goût, hein, votre, oui, traduction insiste sur la notion de goût, le goût pour la philosophie. Et la fameuse question qu'on nous pose sans cesse, enfin qu'on doit aussi vous poser, à quoi sert la philosophie? Pourquoi faites-vous de la philosophie? Eh bien, c'est peut-être aussi un certain goût pour le questionnement, pour la réflexion, et c'est pas forcément pour les réponses d'ailleurs, mais plutôt pour le fait de formuler certaines questions. Et aussi, et c'est ça qui est fascinant dans ce texte, parce qu'Aristote semble datée, l'avènement de la philosophie le dit bien. Avant cela, on avait déjà presque toutes les choses nécessaires qui se rapportent à la commodité. Quand on commença à chercher cette sorte de connaissance, à qui est-ce qu'il fait référence là ?
Alors, il fait référence aussi aux Égyptiens. Il pense que c'est chez les Égyptiens, enfin il le sait, que c'est là que s'est développée la première mathématique. Et il fait référence parfois aussi aux Babyloniens. Donc il est très conscient de l'héritage scientifique qui venait de ces deux cultures. Et il explique que c'est probablement parce que c'était des cultures où on avait du loisir. Et donc où on pouvait justement se consacrer à autre chose que strictement aux besoins. C'est la raison, c'est pour lui la raison culturelle qui fait justement l'expansion d'une culture au-delà du strict nécessaire.
Et il justifie ensuite cette démarche-là, et ça c'est la fin du texte, en disant que, d'accord, on avait déjà d'autres sciences, mais c'est la seule qui est libre, c'est-à-dire en vue d'elle-même, la seule qui n'est pas au service de quelque chose.
Exactement, elle ne sert pas justement, et quand on demande donc, ah, mais alors à quoi sert-elle, on pourra répondre à rien, ce n'est pas au sens utilitaire du terme, si ce n'est qu'elle sert à nous faire plus grands, plus intelligents, plus lucides sur notre condition, et donc Aristote en parle aussi dans ses éthiques, parce qu'il pense que le choix de vie théorétique, comme il dit, ou contemplatif, comme on l'a parfois traduit, le choix de vie intellectuelle, on pourrait dire, c'est le choix de vie qui, pour lui, correspond le mieux à l'humain, puisque l'être humain a cette faculté rare de pouvoir penser, alors pourquoi ne pas l'épanouir ? Pourquoi vivre comme s'il n'avait pas ce pouvoir ? Donc, la vie la plus achevée, la plus complète, c'est celle qui intègre aussi, pas uniquement, mais aussi la dimension vraiment proprement intellectuelle ou scientifique au sens large.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut lire ces textes de métaphysique comme étant la mise en œuvre, peut-être pour Aristote, dans son activité philosophique, du modèle qu'il décrit au chapitre 10 de l'Éthique à Nicomaque, où l'homme serait heureux quand il s'élèverait dans une forme de contemplation qui le hisserait hors des soucis quotidiens et le ferait seul accéder à une forme de contemplation, disons presque de béatitude ?
Alors, je ne pense pas que chez Aristote, contemplation ait jamais eu le sens d'une certaine mystique ou un certain état, je dirais, de béatitude. C'est la théoria, chez lui, c'est vraiment une étude méthodique et qui demande un effort scientifique, donc un effort de démonstration, d'investigation. Il est très méthodique, hein. Aristote, il a établi longuement comment doit être la recherche scientifique. Donc, c'est plutôt une vie d'étude, je dirais, que contemplative au sens où on planerait au-dessus des contingences. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, comme on le sait, il s'est occupé lui-même de tous les aspects de la vie, aussi bien la vie humaine, la vie animale et les aspects physiques du non-vivant. Donc lui-même s'étant intéressé à tout, on ne peut pas soupçonner que pour lui, le plaisir suprême soit de ne plus être connecté avec rien. Au contraire, c'est vraiment un homme d'action, Aristote. C'est un homme qui n'est jamais aussi heureux que quand il est dans l'action, quelle qu'elle soit, hein, intellectuelle, politique, amicale aussi. Hein, c'est un homme qui cultive l'amitié. Donc, c'est vraiment un homme complet et il prône ce genre de vie complète.
C'est peut-être en ce sens qu'on peut comprendre, que, y compris dans ses écrits métaphysiques, il y a une telle insistance sur le mouvement, puisqu'au fond, la question qui le préoccupe, c'est d'où vient ce mouvement premier.
Oui, donc ça, alors l'étude du mouvement, elle est surtout concentrée dans la physique, puisque la physique s'occupe de tous les étants qui ont leur mouvement à l'intérieur d'eux-mêmes, hein, tous ceux qui ont ce principe de mouvement, cette impulsion naturelle au mouvement. Mais la métaphysique établit de manière encore, je dirais, plus conditionnelle, plus hypothétique, ce que doivent être les étangs pour que certains soient en mouvement et les autres en repos. Donc il y a une discussion qui prend encore de la distance par rapport simplement au mouvement. La métaphysique, bon, on peut dire que c'est un... En quoi est-ce qu'elle peut être utile à l'homme, je dirais, à l'homme simplement cultivé, qui veut se cultiver encore un peu plus? Eh bien, je pense que c'est vraiment au sens où l'ont compris, par exemple, Hegel ou Heidegger, en se référant aux Grecs. C'est au sens où on ne se contente pas de voir les objets qui nous entourent dans leur rapport immédiat à nous. C'est-à-dire que ce soit un rapport utilitaire ou même esthétique, mais on se demande vraiment ce qu'ils sont en eux-mêmes. Et on n'aura de cesse de trouver ce qu'ils sont en eux-mêmes, y compris nous-mêmes d'ailleurs. Que sommes-nous, nous, en eux-mêmes ? Donc il y a chaque fois une enquête à la fois sur le monde et sur nos conditions de possibilité de compréhension du monde. Comment se fait-il que nous soyons capables de saisir la vérité des choses ? Il y a toute une critique aussi de la pensée comme pouvant atteindre la vérité. Toute une, voilà, une réflexion sur la possibilité d'atteindre la vérité. Les deux vont de pair. Donc cette métaphysique, elle passe par la mise en évidence de propriétés qui appartiennent à tout ce qui est. Et on peut donner des exemples très simples.
Alors, en fait, ouais.
Voilà, très simples de ces propriétés. Si je prends une chose qui existe, quelle qu'elle soit, vivante, non vivante, forcément, je devrais lui donner une unité et une multiplicité. C'est-à-dire qu'elle sera une en un certain sens, elle forme une unité, elle sera multiple en ce sens qu'elle a forcément des parties différentes, des aspects différents.
Par exemple, si on prend, est-ce qu'on a devant nous un micro ?
Ce micro est composé de diverses parties, de divers matériaux, il a diverses couleurs, donc il est multiple. En même temps, il est un, c'est un micro, hein, il a cette unité d'ustensile. Et puis, ce micro, il est en relation avec tous les objets qui l'entourent, donc dans ces relations s'instaurent les propriétés de différence ou de similitude, d'égalité, d'inégalité, et tout ça aussi appartient absolument à chaque chose, pourvu qu'elle soit. Dès que quelque chose est, elle a des relations avec d'autres, et donc il y a toute une batterie de propriétés qu'on peut du coup immédiatement lui attribuer. Et Aristote se demande alors, de manière très subtile et très nuancée, quelles sont les différences entre ces propriétés qui ont l'air de dire à peu près la même chose. C'est quoi la différence entre identique et semblable, entre l'altérité et la différence, justement. Et donc, cette enquête extrêmement technique, elle se trouve particulièrement dans le livre Delta.
Voilà, auquel vous avez consacré un ouvrage de Chevrin, qui est comme une forme de dictionnaire, hein, où il donne des définitions de chaque terme pour les distinguer de ces homonymes, enfin pas seulement, comme une boîte à outils pour que le philosophe sache exactement de quoi il parle quand il emploie tel terme.
Voilà, je pense que l'image de boîte à outils, en fin de compte, elle est encore meilleure que celle de dictionnaire. Et je vous remercie de l'avoir dit, parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait déjà proposé. Oui, avec mon collègue donc Richard Baudéus de l'Université de Montréal, on voulait proposer un commentaire très approfondi de ce livre, parce que ce livre n'a pas l'air bien intégré dans le courant de la métaphysique. Il interrompt un peu la continuité de l'exposé en proposant une série de 30 notices qui sont concentrées sur 30 termes dont on se demandait quelle était aussi la logique du choix. Et puis finalement, on a bien compris la logique de ce choix. C'est que ce sont justement tous des termes qui sont directement liés à l'enquête ontologique telle qu'on vient de la définir. Donc ou bien il s'agit justement de être, substance, ou alors de ses propriétés telles que un, multiple, différent, contraire, opposé. Tous ces termes-là qui sont ont besoin d'une clarification et surtout d'une structuration de leurs usages. Comme ils sont utilisés à peu près à propos de tout, et avec des significations souvent différentes selon les auteurs ou selon les domaines, il s'agit vraiment de clarifier pour pouvoir dire, en fait, ils structurent bien l'ensemble des étangs et ce sont des termes que personne ne peut ignorer, même dans le langage courant, sinon on n'arrive plus à parler. Sinon on n'arrive pas à parler ni à concevoir le monde autour de nous sans ces termes-là, sans comprendre profondément ces termes-là. Donc voilà en quoi l'enquête métaphysique recouvre tous les domaines et même est utile si on veut clarifier le langage ordinaire.
J'avais 3 jours devant moi, je dis tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel. Je lui dis, où est la mer ? Il me dit, la mer, elle est démontée. Ah ben, j'ai voulu la remonter quand ? Il me dit, c'est une question de temps. Je lui dis, moi, je suis ici pour 3 jours. Il me dit, en 3 jours, l'eau a le temps de couler sous le pont. Je dis, le pont ? Merci, je vais attendre demain. Alors, le lendemain, je me dis tout de même, avant de partir, faut que je me débrouille pour voir la mer. Je vois le portier de l'hôtel, je lui dis, je voudrais voir la mer. Il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, parce que c'est la fête. Ah, je dis, c'est la fête ? Il me dit, oui, alors on fait le pont.
Tout s'arrête. ou continue. L'amour peut être entre deux êtres, avec cette difficulté d'être, il m'aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Toi, toi qui me reçois 7 sur 7, tu vois pas que je ne suis pas bien dans ma tête.
Que faut-il être ou ne pas naître, la métaphysique selon Jane Birkin et Serge Gainsbourg, après l'utilité de définir les termes par Raymond DeVos. Vous écoutez Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture, il est 10h26. C'est le quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à Aristote, le maître de ceux qui savent, disait Dante. Aristote et en particulier aujourd'hui les traités, enfin les écrits sur la métaphysique d'Aristote, et c'est la philosophe Annick Stevens qui vient nous en parler aujourd'hui.
C'est pas net, toi mon amour, toi qui as des lettres, préfères-tu Macbeth ou Hamlet? Je sais, j'ai bien fini par te connaître. Avec cette difficulté d'être, il m'aurait mieux fallu peut-être ne jamais naître. Toi, toi qui me reçois 7 sur 7, tu vois pas que je ne suis pas bien dans ma tête.
Alors, Annick Stevens, qu'on comprend à la lecture du livre Delta de Métaphysique, donc d'Aristote, où je le redis pour ceux qui n'auraient pas entendu juste avant, voilà, c'est, on a comme un. Des propositions de définition de termes que va employer Aristote, des termes qui sont à la fois courants et proprement, disons, philosophiques. Mais ce qu'on comprend, c'est que, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, en faisant un peu l'avocat du diable, en disant qu'il y a d'un côté l'utilité de définir des termes, c'est purement linguistique, oui. Et de l'autre l'ontologie, c'est qu'en fait les deux sont complètement liés, c'est qu'il n'y a pas d'ontologie sans de linguistique.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est frappant chez Aristote l'importance de l'entrecroisement entre le langage, la logique comme structure de la pensée, et puis le niveau ontologique lui-même, les choses telles qu'elles sont. Et on peut le remarquer notamment lorsque...
Attendez, j'ai perdu. Vous cherchez un exemple? Non, sur le lien entre la linguistique et l'ontologique, c'est-à-dire que finalement la métaphysique, ce qu'on appelle aujourd'hui la métaphysique, même si le terme n'est pas d'Aristote, n'est pas une sphère coupée ni de l'expérience, ni du savoir, ni même du langage. La métaphysique est affaire de langage, c'est-à-dire que dès lors que nous parlons, que nous employons des termes pour communiquer, pour décrire, nous sommes dans une forme de positionnement qui est toujours, alors pas forcément métaphysique, mais qui dit quelque chose du monde dans lequel nous vivons.
Oui, oui. Et l'exemple que j'allais prendre, où c'est tout à fait remarquable, c'est l'exemple du principe de non-contradiction. Alors ce principe-là, il occupe une partie du livre Gamma, de la métaphysique, une partie importante, parce que c'est pour Aristote l'un des axiomes les plus généraux de tout ce qui est. Non seulement il est vrai dans tous les étants, mais en plus il est vrai, il est indispensable au langage. On ne peut pas parler, dit-il, on ne peut pas penser si on n'applique pas le principe de non-contradiction. Et c'est un principe qui a parfois été mal compris, dans un sens un peu trop restreint. En réalité, il faut comprendre, donc je l'énonce, et c'est le principe qui dit que on ne peut pas dire à la fois d'un sujet qu'il est et qu'il n'est pas, ou à la fois lui attribuer une chose et son contraire. Bien entendu, en même temps et sous le même rapport. Il ne s'agit pas évidemment de dire que ce micro est en même temps noir et violet puisqu'il est sur deux parties différentes, ni de dire qu'il peut changer. Non, on parle de en même temps et sous le même rapport. On ne peut pas attribuer une chose et son contraire ou son contradictoire ou dire que quelque chose est et n'est pas sous le même rapport de l'existence. Et donc c'est à la fois un principe des étants, pour les étants, c'est-à-dire c'est impossible qu'une chose en même temps soit et ne soit pas sous le même rapport. Bien sûr, on peut dire qu'elle n'est pas en effectivité mais elle est en puissance, mais à ce moment-là, justement, on introduit des modalités. Et c'est un principe du langage parce qu'il il énonce une nécessité sémantique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner conventionnellement à chaque chose un nom sur lequel on se tient et on se met d'accord. Mmh. C'est-à-dire que si il est permis d'appeler une chose par son nom et par un autre nom, ou de l'appeler par son nom et par la contradiction de ce nom, alors il est impossible de se comprendre, y compris même de se comprendre soi-même. Donc c'est en fait, on voit que c'est un principe du langage, la signification même des mots repose sur le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, hein, on fixe une signification, même si c'est conventionnel, et ensuite, il ne s'agit pas de venir dire « Oui, mais moi, ce que vous appelez comme ça, je l'appelle au contraire, hein, par son opposé. » Ça serait une impossibilité donc, de communication. Et ça, pour ça, Aristote estime que c'est aussi vrai dans le langage que dans les choses elles-mêmes.
Alors, quel est l'apport d'Aristote sur ce sujet-là ? Puisque finalement, le principe de non-contradiction, le fait qu'une chose ne puisse être et ne pas être en même temps, c'est un débat qui le précède, dans lequel il s'insère.
Oui, alors il réagit, d'ailleurs, de la même manière que Platon, il réagit souvent à des... provocation venant des sophistes. Hein. C'est clair que alors ce mouvement qu'on a appelé les sophistes, qu'on a, réhabilité récemment parce qu'il fallait cesser de les réduire à la critique qu'en donne Platon, parce que ces sophistes ont amené des vraies questions philosophiques, notamment, enfin en tout cas les plus grands d'entre eux, Protagoras, Gorgias, des questions telles que justement la question du relativisme de la connaissance. Hein. Est-ce que nous avons vraiment accès aux choses ou bien est-ce que tout ce que nous connaissons, en fait c'est nous qui le projetons sur les choses, c'est simplement notre manière d'interpréter et puis c'est rien de plus, puisqu'il y a une question absolument fondamentale qui a été apportée par les sophistes. Mais à côté de ça, il y avait des petites provocations, disons des jeux de mots qui étaient faits justement sur les ambiguïtés du langage ou sur l'ambiguïté de l'usage du verbe être. Alors on en revient toujours à ce fameux verbe être. C'est vraiment stimulé par ces difficultés qui prêtaient le flanc à toutes sortes de jeux que Platon et Aristote ont entrepris de clarifier ces usages. Un exemple, on peut jouer très facilement sur l'usage copulatif et l'usage existentiel du verbe être. Je veux dire par exemple si on dit Homère est un poète, c'est une phrase qui est vraie, c'est une proposition vraie, puisque Homère est effectivement un poète. Mais si on en déduit qu'on peut dire Homère est, cela devient faux, puisque Homère est signifierait Homère est vivant. En tout cas pour un grec, hein, quand on dit est, en grec, ça suffit pour dire est vivant. Et donc ça devient faux. Par conséquent, l'usage copulatif n'est pas un usage existentiel, hein, n'est pas un jugement d'existence. Mais avant qu'on ait établi tout ça bien clairement, on jouait avec comme on voulait, bien sûr. Et ça a été voilà, la réponse des philosophes et le désir de se distinguer de ceux qui ne faisaient qu'utiliser ces ambiguïtés pour l'emporter dans des querelles, pour des joutes, hein, des joutes oratoires ou des joutes dialectiques. Et les philosophes se distinguaient au fond, je crois, vraiment essentiellement des sophistes en ce qu'ils prenaient le savoir au sérieux, en ce qu'ils disaient non, nous on veut vraiment bâtir un savoir, on ne veut pas juste utiliser des savoirs et utiliser une position, disons, de plus grande... l'avantage qu'on a grâce au savoir, hein, on ne veut pas utiliser notre situation avantageuse pour des effets pratiques, voilà, pour l'emporter dans un, par exemple dans la rhétorique.
Il y a quelque chose qui se meut toujours d'un mouvement ininterrompu, et tel est le mouvement circulaire. De sorte que le premier ciel sera éternel. Il y a donc aussi quelque chose qui meut. Et puisqu'il y a le mu, le moteur et l'intermédiaire, il y a quelque chose qui meut sans être mu, en étant éternel et substance et acte. Or meuvent de cette façon le désirable et le pensable. Ils meuvent sans être mu. La première chose désirable et la première chose pensable sont les mêmes. Or, la pensée est mue par le pensable, et l'une des deux séries est pensable par elle-même, dans laquelle la substance est première, et d'abord la substance simple, et en acte. Il meut donc comme un objet d'amour, et par ce qui est mu, il meut les autres choses. Si donc une chose est mue, il se peut qu'elle soit autrement, de sorte que même si le déplacement premier est acte, dans la mesure où la chose est mue, elle peut être autrement, à savoir selon le lieu, si ce n'est pas selon les sens. Mais puisqu'il y a un moteur, qui est quant à lui immobile et en acte, celui-là, ce moteur, ne peut être autrement d'aucune façon.
Le printemps d'implosion, le printemps d'implosion. explosion.
Quelle est
le principe
du matin à explosion? Quelle est
le principe
du matin à explosion?
Quelle
est le principe du matin à explosion? Quelle est
le principe
du matin à explosion?
Quelle
est le principe
du matin à explosion?
Quel est
le principe
du matin à explosion?
Quel
est le principe
du matin à explosion?
Quel est
le principe
du matin à explosion?
L'énergie thermique produite par combustion.
Voilà le principe du moteur à explosion.
Mais non.
Excusez-moi.
Mais non, ce moteur n'est pas à explosion. Voilà, en effet, dans le livre Lambda 7. De la métaphysique d'Aristarque à Nick Stevens, et pourtant il s'agit bien d'un moteur, hein, j'ai lu le texte, un moteur qui lui-même serait immobile mais qui engendrerait le mouvement. C'est là quand même l'apport proprement métaphysique d'Aristote ici dans ces textes-là, à savoir que il pense, on l'a dit, les choses en termes de mouvement, et il identifie un moteur premier. Vous avez dit tout à l'heure que selon vous c'était pas ce qu'il y avait de plus fondamental peut-être dans ces textes métaphysiques, pourtant... Et alors, je ne sais pas, vous allez dire si je me trompe, mais c'est le premier à formuler les choses ainsi.
Oui, tout à fait. C'est une hypothèse qui lui est tout à fait propre. Et en fait, c'est une hypothèse qui lui a été rendue nécessaire par son analyse physique. C'est-à-dire que, ayant étudié de manière physique les astres, le mouvement des astres, il a l'impression que ce mouvement des astres doit être éternel. Alors, pas seulement à cause de l'observation, puisque ce qui est trompeur, évidemment, mais aussi parce que le temps est éternel. Et si le temps est éternel, le mouvement doit être éternel, puisqu'il n'y a pas de temps sans mouvement. Donc, il faut qu'il y ait au moins un mouvement qui ne s'interrompe jamais. Il pense du coup que c'est le mouvement des astres. Alors, pour garantir un mouvement qui ne s'arrête jamais, il faut que le moteur soit constamment en acte, soit constamment donc efficient, constamment en train de mouvoir. Puisque, par ailleurs, autre erreur, disons scientifique, Aristote ne reconnaît pas le principe d'inertie. Donc, il est obligé de concevoir un moteur qui ne cesse jamais d'agir. Or, n'importe quel corps ne peut pas agir perpétuellement parce que tout corps s'épuise. Et donc, il faut un moteur qui ne soit pas corporel. Donc, il est obligé de concevoir une substance qui n'est pas corporelle et qui pourtant agit sur des corps, hein, qui sont les sphères sur lesquelles sont portés les astres.
C'est le même problème dont on parlait hier avec le traité sur l'âme, justement avec Anne-Mercaire. L'âme était cette espèce peut-être de moteur qui engendre le mouvement sans être elle-même vraiment en mouvement.
C'est ça. Si ce n'est que l'âme est en mouvement par accident, comme dit Aristote, c'est-à-dire elle est en mouvement néanmoins, puisqu'elle est dans le corps et que le corps se déplace, alors elle est entraînée par ce mouvement. Mais il établit que les moteurs des astres, eux, parce que c'est au pluriel, hein, il y en a une cinquantaine, bon, que ces moteurs, eux, ne peuvent pas même pas être en mouvement par accident, parce que s'ils étaient entraînés par le mouvement de la sphère à laquelle ils sont liés, ils changeraient de position, et changeant de position, il serait possible que leur mouvement se modifie aussi. Enfin, que le mouvement qu'ils impriment se modifie aussi. Donc, ils doivent être absolument séparés, détachés de tout contact avec un corps. Alors, évidemment, on se pose l'énorme question, mais alors comment peuvent-ils bien agir s'ils sont sans aucun lien avec le corps? Et c'est une difficulté à laquelle il est très probable que Aristote ne soit jamais arrivé à trouver une solution tout à fait satisfaisante. C'est du moins ce que dit Théophraste, hein, son disciple et successeur, qui dit que, bon, Aristote n'est jamais arrivé à... Donc, c'est une explication tout à fait parfaite de cette question, trop difficile. Et dans ce fameux passage que vous avez lu, il s'agit bien d'une comparaison. C'est-à-dire, on dit « il meut comme le désirable et le pensable ». Parce que ça, c'est un mouvement que Aristote avait déjà étudié dans les vivants. Les vivants sont mus par quoi? Ils sont mus par, justement, ce qu'il appelle la cause finale. Ils sont mus parce qu'ils désirent quelque chose, et l'objet de leur désir, tel qu'ils se le représentent, c'est ça qu'ils poursuivent. Et c'est pour ça qu'ils se mettent en mouvement. Ils poursuivent donc cet objet de leur mouvement, qui lui est immobile, dans la mesure où c'est seulement une représentation dans leur esprit. Et donc, c'est la même chose pour la pensée. Au lieu d'avoir un objet de désir, on peut avoir un objet de pensée, c'est-à-dire penser par exemple une valeur morale et être mu par elle. Donc, être par elle conduit à faire une grande action. Donc, dans les deux cas, on voit bien que le moteur, lui, est immobile. Ou on peut être ému par quelqu'un qui se tient immobile. On peut être mis en mouvement par quelqu'un qui se tient immobile. Donc, on voit que dans tous ces cas, il est possible qu'un moteur agisse sans se mouvoir le moins du monde, sans même avoir l'intention d'agir, hein, dans tous ces cas. Et donc, il fait cette analogie en se disant, il se peut bien qu'on ait quelque chose du même genre. La difficulté, c'est que ni les astres eux-mêmes, ni les sphères des terres sur lesquelles sont portés ces astres, ne sont censés avoir une âme désirante ou une âme pensante. Donc,
parce qu'Aristote prend bien soin de distinguer ce que Pierre Robin a pu appeler le monde sublunaire d'un côté des êtres humains et de l'autre le monde supralunaire où les astres se meuvent, mais que ce sont deux mondes précisément différents.
Mais surtout, ce ne sont pas des vivants. Ce sont des matières, ce sont des corps, mais ce ne sont pas des vivants. Et par conséquent, ils ne peuvent pas désirer et penser. Donc il y a là quelque chose de... on ne peut pas prendre au pied de la lettre la comparaison. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'une véritable application de ce modèle aussi au mouvement des astres. On peut juste dire, par analogie, Aristote fait sentir que il faudrait qu'il se passe quelque chose du même genre. Mais il ne peut pas en dire plus. Voilà, alors ça c'est l'explication, disons, vers laquelle ces dernières années on s'est de plus en plus dirigé. Parce que ce n'était pas le cas avant. C'est vrai qu'avant, l'interprétation d'Aristote est longtemps restée dans une prise en compte tranquille du fait que les moteurs immobiles agissaient en tant que cause finale, donc en tant qu'ils étaient désirés ou pensés par... Mais alors par quoi ?
Mais du coup, si on suit cette hypothèse-là jusqu'au bout, la métaphysique devient une forme de théologie, parce que finalement, là, le moteur premier, c'est l'autre nom de Dieu.
Bien sûr, mais c'est ce qui est arrivé, évidemment, au cours de l'histoire. Et c'est là que la métaphysique, évidemment, elle a été le berceau de certaines pensées, d'ailleurs de plusieurs courants, même très différents de pensées, mais celui qui l'a emporté, celui qui a été le plus dominant pendant des millénaires, on peut le dire, c'est l'identification du premier moteur avec Dieu, bien sûr, déjà dans le monothéisme musulman, puisque Aristote a d'abord été... remis au goût du jour par les penseurs arabes et puis ensuite par les penseurs chrétiens. Mais avant ça, en fait, cette tendance avait déjà été initiée précisément par le néoplatonisme. Le néoplatonisme qui établit une sorte de synthèse entre Platon et Aristote, reprend pas mal d'éléments d'Aristote, mais en les tirant toujours d'un côté, disons, plus, je ne vais pas dire théologique, puisque chez eux, il n'y a pas un monothéisme, mais en tout cas vers le nombre le plus restreint possible de principes. Et ça, c'est intéressant. Il y a deux démarches possibles en science. Ou bien on accepte qu'il y a une multiplicité de principes qui sont à peu près au même niveau et qu'on ne peut pas réduire à un, ou bien on cherche vraiment à remonter au plus petit nombre de principes possibles. Et les néoplatoniciens voulaient remonter à un principe unique.
En particulier à
Plotin, bien sûr. Il y a vraiment chez Plotin une remontée à un principe unique et même à l'un, comme l'un, justement, l'unité même et le principe final. Ça illustre bien à quel point c'était important pour lui l'unité. Mais ce n'est pas le cas chez Aristote. En fait, chez Aristote, il y a irréductiblement une multiplicité de principes, en particulier les formes. Les formes ne sont pas réunies sous une seule. Donc je pense que c'est difficile de lui appliquer un modèle néoplatonicien. On voit bien comment il y a une certaine déviation, en fait.
Et pourtant, il y a quand même des points communs qui sont assez troublants entre notamment le texte que j'ai lu, donc le chapitre 7 du livre de la métaphysique et Plotin, puisque vous le citez, j'ai le texte sous les yeux, la troisième Énéade de Plotin, dans le livre 9e, il décrit bien, il parle du premier moteur qui renferme à la fois le mouvement et le repos. Enfin, il n'emploie pas le terme de moteur, ça c'est moi qui l'emploie. Il se rapporte le premier, il dit tout simplement, il ne se rapporte à nulle autre chose, tandis que les autres choses subsistent en lui dans leur repos. On sait que le Plotin identifie l'un avec le bien même au-delà de la pensée. Et dans le texte d'Aristote lui-même, même si je n'ai pas lu, il parle de ce moteur comme étant aussi, il le compare avec le beau, il parle même d'amour. Enfin, on est quand même très proche ici d'un principe unique qui semble avoir quand même quelque chose de divin parce qu'on lui accole soit l'adjectif de bien, soit le nom même d'amour.
Voilà, donc effectivement, on est exactement ici dans l'analyse de cette synthèse qu'a fait Plotin entre Platon et Aristote. Donc il reprend de Platon, du Platon de la République, l'idée que le bien est au-delà de l'être. Et ce principe du bien, il en fait un principe tout à fait suprême, probablement bien au-delà de ce que voulait Platon. Et ensuite, il l'identifie au premier moteur d'Aristote. Et il le fait précisément parce que ce passage de lambda que vous avez lu, il ne l'interprète pas comme une analogie, il l'interprète comme immédiatement, s'appliquant immédiatement à ce moteur.
C'est ça, mais donc il y a bien le texte d'Aristote qui est présent dans ensuite Plotin.
C'est tout à fait certain.
C'est une synthèse entre les deux.
Il y a vraiment une synthèse entre les deux, et c'est ce qui a initié donc l'interprétation d'Aristote mais qu'on peut dire platonisante, finalement, donc par conséquent, hein, étant donné ce rapprochement, comme ayant conçu un principe unique qui soit en même temps le bien et le divin. Mais il est vrai que Aristote utilise à un certain moment le mot divin à propos de ses moteurs. Mais bon, il faut bien savoir que divin, c'est un terme qu'on dit à propos de choses éternelles. Il dit aussi que les astres sont divins parce qu'ils sont éternels, ou à propos de choses qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc c'est pas au sens
où on l'entendrait aujourd'hui après dans le monothéisme.
Voilà, ouais. Où depuis le monothéisme, évidemment, on a insisté sur l'unicité du divin, etc. Bon, là, le divin est multiple encore, cher Aristote.
Voilà, donc vous insistez dans les multiples interprétations possibles et lectures de ce texte sur la pluralité et des moteurs et des sciences elles-mêmes. En fait, c'est ça, vous voulez dire, oui. Aristote ne réduit pas le savoir, y compris le savoir philosophique et métaphysique, a un seul principe.
Exactement. Exactement. Il tient beaucoup à la multiplicité des principes. Et finalement, ce qui unifie tout de même ces structures diverses des étangs, on peut dire que finalement, c'est le sens de l'être. Et on en revient au sens de l'être comme n'étant pas fortuit, hein, comme le fait que ce n'est pas fortuit que toutes ces choses-là s'appellent des étangs et ont le même genre de structure, peuvent être ramenées au même principe, mais au même principe au pluriel. Oui.
Ah, au même principe au pluriel, c'est
ça. Au pluriel, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, quand il étudie, il y a une partie très importante de la métaphysique qui est consacrée à l'étude de la forme, justement, hein, de l'eidos. Et c'est aussi un point culminant qu'il appelle particulièrement philosophie première. Hein. Il se réfère à l'étude de la forme dans d'autres ouvrages comme de la philosophie première.
Il faut le comprendre comme en première ici.
Au sens où elle a c'est un objet tout à fait imminent. Elle a un objet imminent et qui est plus explicatif que d'autres explications, disons, plus locales. Voilà, ça, c'est une explication qui est tout aussi globale, puisque toute chose a une forme. Et donc, il essaye d'éclaircir, justement, cette notion générale de forme, telle qu'elle s'applique, mais alors de manière multiple, à chaque chose. Et donc, il y a constamment, chez Aristote, je pense que c'est tout à fait frappant, ce va-et-vient entre le multiple et l'un, tout le temps. Une tension entre l'unité et la multiplicité, mais jamais l'une n'est réduite, jamais l'une n'est supprimée par l'autre. Ah, c'est ce qui me semble, moi, particulièrement intéressant.
Et sans non plus, parce que c'est l'inverse, d'après ce que vous dites, que, comme chez Platon, où finalement le multiple est réduit au sensible, et donc il y a quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de la déficience d'être, quand le un serait du côté de la vérité.
Alors chez Platon, il y a quand même une multiplicité de formes aussi, puisque les idées sont multiples, ouais. Et Platon n'essaye pas de les réduire à une. Quand il dit que le bien est au-delà de l'être, le bien est tout de même une forme aussi parmi les autres. Donc elle est un peu mystérieuse, elle est aussi sujet à controverse, cette formule-là. Il n'y a pas chez Platon non plus ce désir de réduction à l'un. C'est vraiment par la suite.
Ça, ce sera vraiment dans la modernité.
En tout cas, dans le néoplatonisme, que ça s'est vraiment accentué. Et les héritiers, aussi bien de Platon que d'Aristote, ont eu tendance à systématiser les pensées, hein, aussi bien de l'un que de l'autre, et systématisé, eh bien, ça donne toujours la tentation d'unifier, hein, de ramener tout à une explication causale. Et en systématisant, on simplifie, on appauvrit, je trouve, ses pensées. Donc, pour moi, c'est aussi vrai pour Platon que pour Aristote. Les héritiers ont plutôt appauvri qu'ils n'ont vraiment poursuivi l'effort qui avait été fait.
Ce qui explique pourquoi, sans doute, Aristote a longtemps été considéré comme un obstacle à l'avènement de la science moderne, qui, elle, justement, visait à unifier. Hein, Galilée, qui va montrer que la nature est écrite en langage mathématique, il applique la mathématique à la physique, faisant fi, là, de la multiplicité des sciences telles qu'Aristote l'avait mise en œuvre, et qui peut-être ne fonctionne plus à cette époque-là, du coup.
C'est ça. Alors là, évidemment, on passe à un autre paradigme. C'est vrai que le paradigme mathématique, au fond, Aristote l'avait déjà affronté, puisqu'il était déjà chez les pythagoriciens, d'une certaine manière, et chez Platon. Et donc, Aristote avait réfléchi vraiment sur le statut des mathématiques, sur le statut explicatif, et il avait estimé que ce n'était pas un instrument tout à fait adéquat pour décrire la diversité du réel, ou plus exactement, l'indétermination qui se trouve dans la physique. La physique n'est pas exacte. La géométrie est trop exacte pour la physique, ce qui est, je pense, encore intéressant maintenant comme question. Et sinon, par contre, il est vrai que ce qui était devenu sclérosant, c'est la scolastique, c'est-à-dire une interprétation d'Aristote figée, hein, ce que lui-même n'était pas du tout.
How little we know, How much to discover? What chemical forces flow from lover to lover? How little we understand what touches off that tingle, that sudden explosion when two tingles intermingle.
Et oui, nous savons bien peu de choses. C'est Frank Sinatra qui nous le rappelle à l'issue de cette émission consacrée à la métaphysique d'Aristote et que vous nous avez rendu plus clair. Pourtant, Annick Stevens, un grand merci à vous.
Merci, enfin, j'espère.
Oui, c'est sûr. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous avez consacré au livre Delta de la métaphysique. On le trouve chez Vrin. Et puis, à la lecture de la Pléiade qui, sous la direction de Richard Baudéus, propose les œuvres d'Aristote, éthique, politique, rhétorique, poétique et métaphysique. How little we know. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore deux minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
La quête de certitude, c'est le titre du livre dont vous nous parlez aujourd'hui.
Tout à fait, la quête de la certitude, une étude de la relation entre connaissance et action. C'est un ouvrage de John Dewey et il est paru aux éditions Gallimard. En 1928, le philosophe américain John Dewey est invité à donner une série de conférences en Écosse. Alors il est déjà reconnu et ses conférences ont pourtant un succès qui dépasse toute attente. Un journaliste dépêché sur place parle même de scènes extraordinaires, d'une foule de gens debout, postés dans les escaliers à devoir tendre l'oreille. Bref, un véritable succès. Mais un véritable succès qui s'explique parce que John Dewey est loin du philosophe assommant qui ne donne que dans la spéculation. Sa philosophie, au contraire, n'invoque tout savoir que pour résoudre des problèmes pratiques. Et c'est ce qu'on découvre dans cet ouvrage publié justement aux éditions Gallimard. Alors cet ouvrage contient précisément ces conférences données par Dewey en 1928 à Édimbourg et l'on y trouve ce qui en a fait le succès. Un attachement à l'action, un attachement en fait à poser les problèmes fondamentaux de la connaissance en rapport avec l'action. Pour ceux qui n'ont jamais lu de John Dewey, il faut commencer par cet ouvrage, c'est une sorte de condensé de sa pensée, un discours de sa méthode même on pourrait dire. On y trouve bien ce qui fait la spécificité de sa philosophie pragmatiste, la déconstruction de la théorie traditionnelle, le rejet d'une sacralisation de la vérité comme contemplation et surtout son insistance sur l'enquête, sur la pratique. Et il faut vraiment lire ce livre en oubliant aussi tous nos préjugés du coup sur la philosophie, son abstraction, sa tendance à établir des vérités figées et incontestables. Car c'est non seulement la méthode de Dewey, mais c'est aussi l'objet même de ses conférences. Dewey part en effet de notre rapport à la certitude, de notre besoin de sûreté dans la vie comme dans la pensée pour critiquer son principal méfait, nous conduire à la léthargie intellectuelle. Or, la leçon de Dewey, c'est bien de remettre la pensée à sa place, c'est-à-dire dans le monde et tourner vers la résolution de problèmes concrets.
La léthargie intellectuelle ne vous guette pas, Géraldine. Rappelez-nous le titre de l'ouvrage.
La quête de certitude, une étude de la relation entre connaissance et action, c'est de John Dewey et c'est aux éditions Gallimard.
Merci à vous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, ainsi que cette semaine consacrée à Aristote. Mais demain, rendez-vous pour les vendredis des chemins, ou les chemins du vendredi, c'est comme vous voulez. Demain, je recevrai le philosophe Dorian Astor qui viendra vous parler de son ouvrage sur Nietzsche. Nietzsche, la détresse du présent, qu'on trouve en folio essai. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que toutes celles consacrées à Aristote cette semaine, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous y trouverez d'ailleurs les indications bibliographiques, musicales, cinématographiques concernant les émissions de cette semaine. Vous pourrez donc réécouter l'émission en ligne et surtout vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter ensuite où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.